Le thème de ce matin, c'est « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Il faut qu'il croisse et que je diminue. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, nous voulons vraiment nous attendre à toi. Tu es le Dieu qui nous a donné une parole excellente et nous voulons pleinement en profiter. Profiter pleinement de notre vie, la vie que tu nous as donnée. Merci Seigneur de fortifier nos cœurs, nos âmes, nos esprits. Nous voulons avoir nos yeux en haut vers les choses qui te glorifient. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur. Et encourage nos cœurs. Vraiment, mets ta faveur sur tes paroles, Seigneur. Et que vraiment, nous soyons visités ce matin. Visite ton peuple, utilise ma bouche et que nos cœurs soient captifs de ton obéissance. Merci Jésus. Amen. Alors, on va aller dans l'Épître aux Galates. J'aime beaucoup l'Épître aux Galates. Et c'est un livre que j'ai médité. C'est un livre qui nous donne beaucoup de bonnes choses. Bien sûr, dans ce livre-là, il fallait avertir les Galates. Paul avait une église là-bas en Galatie et il écrivait à ces chrétiens-là, hein, qui d'ailleurs, ils ont entendu la parole non seulement par Paul, mais par d'autres aussi. Hein. Il n'y a pas que Paul qui a prêché dans ces endroits-là, en Galatie, mais il exhortait les chrétiens de Galatie à ne pas se laisser retourner en arrière, de ne pas revenir en arrière par des faux enseignements. Et les faux enseignements, c'est des faux docteurs des faux frères, hein, des gens qui venaient annoncer qu'il fallait suivre toute la loi mosaïque. Il fallait continuer à se faire circoncire. Il fallait absolument, en tout cas, ceux qui n'étaient pas devaient l'être, etc. Donc, c'était important d'observer en tout point la loi de Moïse. Mais, désolé, si on fait cela, on abandonne la foi, alors. Soit on suit la loi, soit mais la loi, elle est bonne, elle est juste, elle est parfaite, d'accord? Les 10 commandements, nous devons toujours les suivre, d'accord? On ne met pas au rancard. Mais les lois mosaïques dans les prescriptions de l'Ancienne Alliance, et même ce qui a été fait avant l'Alliance mosaïque, hein, parce que la circoncision, c'est à Abraham que Dieu a demandé de circoncire tous les mâles du peuple. Et tout le peuple d'Israël devait être circoncis. Les mâles, bien sûr, hein, devait être circoncis le 8e jour. Hein. Même Jésus a été circoncis, Paul a été circoncis, etc. Mais Paul n'invite plus de se faire circoncire. Pourquoi? C'est pas la loi qui nous sauve. Si la loi doit nous sauver, la foi ne nous sert à rien. Nous observons la loi. Mais la loi a été un pédagogue. C'est quoi un pédagogue? C'est un outil extraordinaire de Dieu qui nous permet, et éducatif, un outil éducatif qui nous permet de réaliser que nous sommes des pécheurs. Voilà, la loi a été donnée pour que notre conscience puisse être exercée et qu'on puisse voir si nous sommes dans la faute ou pas. Et bien sûr, la loi nous met tous dedans. Tous, nous avons fauté. Les juifs et les non-juifs, nous avons été tous mis dans le même sac. Romains, chapitre 1er, chapitre 2, les juifs, les non-juifs, nous sommes tous des pécheurs. Et si c'était possible d'être sauvé par la loi, alors il suffisait d'observer la loi de Moïse. Maintenant, on serait tous des juifs, sans doute, peut-être qu'on aurait cru à la manière des juifs, et ou peut-être pas, mais je ne sais pas. Mais ce serait uniquement en étant juif, ou en tout cas en se faisant circoncire et en observant les rites. Mais ce n'est pas comme cela. C'est par la foi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui peut observer à la perfection la loi et être sauvé. C'est impossible. Impossible. C'est de l'hypocrisie, celui qui croit pouvoir être sauvé par la loi. On ne peut pas être sauvé. D'une manière ou d'une autre, nous péchons en pensée, en parole, en action et par omission. C'est clair. D'une manière ou d'une autre, nous n'avons pas aimé Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Et notre prochain comme nous-mêmes, nous ne l'avons pas fait à la perfection. Nous avons été égoïstes, nous avons pensé à nous. Et tous, nous avons été comme ça d'une manière ou d'une autre. Il n'y a personne qui peut dire « je suis parfait ». Ben non, l'homme riche, il était soi-disant parfait, hein, quasiment. Il disait à Jésus « qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ?» Mais tu sais ce qui est dans la loi, qu'est-ce qu'il est écrit ?« Oui, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas… » Mais j'ai tout observé. Et Jésus le regarde. Il lui dit « mais il te manque une chose ». Ça, c'est le discernement. Va, donne tout ce que tu as, et tu trouveras en Dieu un trésor. Le problème de cet homme-là, c'était une richesse dans laquelle il se confiait. Et Jésus le savait. Il se confiait dans sa richesse. Donc, voilà. Nous avons besoin de la foi pour être sauvés. Alors, Galates, chapitre 1er, verset 3. Nous allons aller dans ce texte-là. Au chapitre 1er de Galates. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher au présent siècle mauvais. Et ce que j'aime bien, c'est que Jésus est venu pour nous arracher. Il s'est donné sur la croix pour nos péchés, afin de nous arracher au présent siècle mauvais. Nous arracher. J'aime bien arracher. Arracher, ça fait penser à une vieille racine. Il y a des gens qui sont dans leur jardin à certains moments de l'année, et j'ai déjà vu ça. Moi, j'ai été dans le cas où j'essayais d'enlever une racine, pas moyen, c'était un truc trop dur, et j'avais beau retirer la terre, et il y avait toujours un morceau qui tenait au fond. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu ça. Arracher, c'est Dieu a dû nous arracher de ce présent siècle mauvais. Vous rendez compte? Arracher, c'est à l'arracher qui nous a fait sortir. Extraordinaire, non? Donc c'est que nous étions tenus, liés à des passions, liés à des péchés. Il y avait des choses mauvaises qui étaient en nous. Nous avons été arrachés de ce présent siècle mauvais. Vous vous rendez compte? C'est extraordinaire ce que Jésus a fait. La volonté de Dieu était de nous arracher aux vieilles habitudes. Il y a des vieilles habitudes. Et aux vieux mensonges anciens. Bien sûr, s'ils sont vieux. Mais aussi, des mensonges modernes. Et même progressistes. Il y a des mensonges de toutes les sortes. D'accord? Le mensonge, c'est le mensonge. La vérité, c'est la vérité. Et il y a des vieilles habitudes qui nous collent à la peau. Et Dieu veut nous arracher aux vieilles habitudes, évidemment. Dieu veut nous arracher aux vieilles habitudes. Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. Quand nous étions enfants, nous étions... Avant de connaître Christ, on va dire comme ça. On a été éduqués chrétiennement, mais nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. Alors, pour les Juifs, il y a les 10 commandements, les 613 ordonnances, etc. Pour nous, dans notre société, c'est quoi? On va dire que, on pourrait dire que ce sont des proverbes et des maximes. Les gens ont sur les lèvres beaucoup de proverbes et de maximes qui sont bonnes, qui sont justes, ou certaines sont justes, d'autres, bon, en tout cas, c'est ce qu'on dit, Et je vais vous en citer comme ça. Vous allez vous reconnaître des fois des choses, peut-être pas tout, parce qu'il y a des choses que j'ai été un peu surpris, mais la plupart on connaît très bien. Les affaires avant le plaisir. Il faut manger pour vivre. Et non vivre pour manger. Le bien commun n'a pas de loi. Chacun veut le tirer à soi. Premier venu, premier servi. La chance sourit aux audacieux. Qui ne dit mot, consent. Il ne faut pas courir deux lièvres à la fois. À chacun son métier et les vaches seront bien gardées. Vous connaissez tout ça quand même, hein? Rassurez. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. La vengeance est un plat qui se mange froid. Oui. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. L'oisiveté est mère de tous les vices. L'occasion fait le larron. Les loups ne se mangent pas entre eux. Il faut que jeunesse se passe. La fin justifie les moyens. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Bien mal acquis ne profite jamais. Qui paye ses dettes s'enrichit. Qui vole un œuf vole un bœuf. On voit plus de vieux ivrognes que de vieux médecins. Ah, je connaissais pas bien ça. On voit plus de vieux ivrognes que de vieux médecins. Comme pour dire, l'alcool c'est pas si mauvais que ça. Hein. Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. J'ai trouvé ça très étonnant. Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Qui est dans le bourbier, il voudrait mettre autrui. On ne peut avoir le beurre et l'argent du beurre. Ça, on l'entend très souvent. Alors. Tout vient à point à qui sait attendre. On pourrait encore rajouter plein de choses. Conforme-toi à ce qu'on a toujours fait, suivi et pratiqué. Hein, c'est moi qui remets quelques phrases. Tu as le droit de mener ta vie comme bon te semble. La religion est une affaire privée. Il y en a qui disent ça aussi. Du moment que tu ne tues pas et que tu ne voles pas. Hein, j'ai jamais tué, j'ai jamais volé. Tu dois jouer des coudes et des épaules pour faire ta place. Tu dois t'imposer. Tu as des droits. Tu es libre de penser ce que tu veux. Du moment que tu ne me marches pas sur mes pieds, tout ira bien. Chacun chez soi. Œil pour œil, dent pour dent. Faut pas m'embêter ou tu vas me trouver. La loi de la jungle. On a travaillé dur pour arriver où nous en sommes, on l'a bien mérité. Il faut mériter son salut. Si tu ne fais rien pour t'en sortir, faudra pas te plaindre, mon vieux. Faut pas faire le fier quand on n'a pas le sou. Il rira bien qui rira le dernier. Vaut mieux être riche, heureux et en bonne santé que pauvre, misérable et malade. Alors, c'est vrai que... Oui. Ouais. Oui, regardez aussi la mode. J'entendais encore ce matin, c'est vrai que les filles actuelles doivent être fines, bien sûr. Elles doivent être. Il y a vraiment quelque chose de précis qui passe par l'effet de mode et la manière de considérer les choses. Et la conformité au monde nous attire bien des problèmes. Alors, Paul dit ceci aux Galates. Après avoir commencé par l'esprit, allez-vous maintenant finir par la chair? Vous avez commencé par l'Esprit Saint, est-ce que vous allez terminer par la chair? Quand nous avons entendu la parole de Dieu, quand les Galates avaient entendu la parole de Dieu, ils se sont convertis. Mais avec les faux docteurs qui sont arrivés, ils ont reçu d'autres enseignements et puis ils sont revenus sous la coupe de la loi. Malheureusement, ils ont glissé. Ils avaient bien commencé et Paul dit attention, hein, vous avez bien commencé, mais on peut faire des progrès au début de notre vie chrétienne pour finir par redevenir ce que nous étions avant. Triste, ça. Hein. On commence bien, on fait quelques progrès, puis on repart vers le fond. Chasse le naturel, et ça c'est, hein, comment on veut? Et il revient au galop, hein. Alors, voilà, chasse le naturel, il revient au galop. C'est tellement facile de faire revenir le naturel. Arrêtez de prier, arrêtez de lire la Bible, et qu'est-ce qui va se produire? Arrêtez de venir à l'église, arrêtez la communion fraternelle. Mais tout ce qui est ancien recommence à prendre de la place. La chair a fait place à l'esprit, puis l'esprit a fait place à la chair. Et donc, c'est un problème, parce que c'est pas parce qu'on a bien commencé qu'on va bien finir. C'est pas nécessairement la réalité. Il faudra y travailler. Si nous ne travaillons pas à notre salut avec crainte et tremblement, nous risquons de piquer du nez. Il y a des rois qui ont très bien commencé et qui ont très mal fini. Par contre, il y en a qui ont moins bien commencé et qui ont mieux fini. Hein? Mais souvent, malheureusement, si on considère les rois d'Israël, les rois de Juda, il y en a beaucoup qui commencent plus ou moins bien, certains. Il y en a qui commencent mal et qui finissent mal. Ça, c'est, il y en a un grand nombre, malheureusement, surtout en Israël. Hein, le royaume divisé d'Israël, là, dans ce côté d'État, là, le problème, c'est qu'ils ont tous mal commencé. Donc, ils ont tous mal fini aussi. Certains ont mal commencé et ils ont bien fini. Ils sont rares. C'est pas des grandes stars de la Bible, parce qu'ils ont tellement fait de mal, que malgré leur repentance et leur changement qui s'est fait sur le tard, on ne retient pas beaucoup de bien. Alors, qu'est-ce que produit la foi et la repentance? Parce que bien commencer, c'est démarrer dans la foi et dans la repentance. Je crois que c'est important, hein. Cette année-ci, si on veut bien commencer, mais commençons par la repentance, si vous voulez bien. Si vous voulez aller plus loin, de toute façon, s'il y a des choses qui vont pas dans votre vie, vous n'irez pas plus loin que la non-résolution de vos problèmes. S'il y a une chose qui stagne au fond de vous, c'est toujours ça qui va être utilisé par le diable pour vous faire descendre d'un étage, à chaque fois. Donc, vous n'allez pas pouvoir décoller. Vous n'allez pas pouvoir décoller si vous ne vous repentez pas pour toutes les fautes commises. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de secret. Il faut un changement. Un changement. La foi en Christ demande aussi une repentance. La foi, c'est de croire vraiment, de se confier entièrement. Mais il y a aussi la repentance. Et la repentance, qu'est-ce que c'est? C'est un changement d'état d'esprit, la repentance. C'est un changement d'état d'esprit. Notre esprit ne doit plus être le même avant et maintenant. Il doit y avoir eu une transformation dans notre façon de penser, dans notre façon de voir les choses. La métanoïa, c'est la repentance. Et métanoïa est composée de deux mots, méta et noyé. Méta, ce qui dépasse, englobe, met au-dessus, et noyé, percevoir, penser, qui signifie changement de vue, renversement de la pensée. Il y a un renversement de la pensée, une transformation, un changement de vue. Je regarde différemment. D'accord? Il y a une contrition, il y a un abandon des péchés, il y a une réalisation du mal causé, une réparation, un désir des pleurs, une tristesse selon Dieu qui nous aide à abandonner nos fautes. Pour que un changement puisse s'opérer, il y a un changement radical. Mais ce qui conditionne tout ça, c'est un changement d'état de vision des choses. Je vois les choses autrement. Je renverse ma pensée. Il y a un renversement dans ma pensée, un changement de vue, un changement d'état d'esprit, un mouvement de conversion et de retournement par lequel l'homme s'ouvre à plus grand que lui-même et en lui-même, il s'ouvre à Dieu. Et il réalise ce que Dieu voit en lui. Parce qu'il y a deux choses qui sont importantes. C'est que nous connaissions Dieu et que nous soyons connus de lui. Et quand nous sommes connus de lui, il révèle qui nous sommes, il révèle qui il est. Et la double révélation se fait. Le Dieu saint et l'homme pécheur que je suis. C'est la double révélation. J'ai la révélation d'un Dieu qui ne supporte pas le péché. Et j'ai la révélation que je suis un pécheur. Tant que je pense que je suis bon, eh bien, c'est qu'il n'y a pas eu de révélation dans ma vie. Et j'ai pensé longtemps que j'étais bon. Et quand j'ai réalisé que je l'étais pas, ça a changé tout. Ça a tout changé. Je me suis humilié. J'ai réalisé que mes péchés me conduisent en enfer. C'est ça le salaire du péché. Mais le don gratuit en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. C'est ça la différence. Acte 11, 18 dit ceci, « Dieu a donc accordé la repentance, la métanoïa, aux païens, afin qu'ils aient la vie. » Sans la métanoïa, sans la repentance, sans un changement d'état d'esprit, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. On ne peut pas dire « J'ai la vie éternelle, Jésus-Christ. » Je ne me suis pas repenti. Je crois que Jésus est Dieu. Et je ne l'ai pas demandé pardon pour mes péchés. Oui, c'était une fois, mais les démons, ils croient aussi, hein, ils tremblent. Ça va pas faire d'eux des esprits sauvés. Non, ils sont perdus, ils sont condamnés. Donc, croire n'est pas suffisant. Il faut aussi s'être accordé avec Dieu, à devoir demander pardon. Ce changement d'état d'esprit permet de recevoir le salut. Je reçois le salut à partir du moment où je crois. J'ai confessé mes fautes et je suis régénéré par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient en nous. Et nous avons deux natures différentes. C'est important de réaliser cela. Quand je suis sans Christ, je n'ai qu'une nature. Marrant, ça, hein? Et quand je suis en Christ, j'ai deux natures. Waouh! Jésus en restant au ciel, Jésus, il était Dieu. C'est tout. En venant sur la terre, il est devenu homme. Donc, il était Dieu, il était homme. Et au travers de lui, eh bien, nous pouvons avoir une deuxième nature, la nature divine. Nous avons la nature adamique, la nature de l'homme, de l'être humain, animée de la nature humaine terrestre. Mais en Christ, nous avons une nouvelle nature, la nature divine, avec le caractère du Christ. Et Dieu veut imprimer son caractère et ses sentiments dans nos vies. Et tout cela se passe par la transformation produite par le Saint-Esprit. Il y a deux choses qui se produisent par le Saint-Esprit. D'abord, la régénération, l'œuvre de régénération. Dieu régénère, il met l'esprit de vie en nous. Il y a une régénération, waouh ! La vie qui vient en nous. Notre esprit était mort dans les péchés, mais en Jésus-Christ, il y a la vie. Et nous recevons la vie en abondance. Et la vie de l'Esprit Saint en nous. Et puis, il y a le renouvellement de l'Esprit. C'est deux choses, hein. La régénération qui se passe quand je reçois Jésus et le renouvellement, c'est quotidien, c'est tous les jours. Je suis renouvelé dans le Saint-Esprit à tel point que Paul dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Donc, tous les jours, soyez renouvelés. Renouvelés tous les jours par le Saint-Esprit. Donc, nous devons faire mourir la nature adamique en nous, qui nous porte au péché par l'ancienne mentalité que nous avons héritée de nos pères. Nous avions hérité une ancienne mentalité, quelle qu'elle soit, même si vous dites « Oh, moi, j'ai rien à voir avec mes parents, je pense différemment d'eux, d'ailleurs. » Eh bien, comme je disais, les mensonges de l'adversaire, l'esprit du monde, qui soit d'hier, ou qui soit d'aujourd'hui, ou qui soit de demain, hein, si vous êtes avant-gardiste, mais c'est quand même l'esprit du monde. Et il est en opposition avec la pensée de Dieu. Nous avons fonctionné avec la mentalité du monde assez longtemps et nous devons veiller à la faire mourir en nous. Et elle produit un système de pensée, de raisonnement, d'habitude dont nous devons nous débarrasser. Ce système de raisonnement, de pensée, d'habitude ancienne doit être débarrassé. C'est ça, arracher les mauvaises herbes. Hein? Jérémie était établi pour arracher, d'accord ? Pour arracher les mauvaises herbes, arracher les racines, hein? Détruire, démolir, arracher et replanter. Et il y a quelque chose d'ancien à enlever, et il y a quelque chose de nouveau à établir. Et dans nos vies, il y a des choses anciennes à enlever et des choses nouvelles à établir. En 2015, il y a des choses anciennes maintenant à enlever. Je vous invite à vos fourches, au jardinage, dans ce jardinage intérieur, en tout cas, on ne va pas encore aller dehors, il va encore geler, mais à enlever toutes les pierres, les ronces, les racines qui sont dans vos cœurs, dans vos vies, qui sont en nous pour les faire partir et établir, laisser Dieu établir son royaume, son règne de nouvelles pensées, une nouvelle mentalité. Et si nous n'y parvenons pas dans l'expérience de nos vies, alors les choses anciennes vont de nouveau nous contrôler. Est-ce que vous voulez être contrôlé par les choses anciennes? Est-ce que ce sont les choses anciennes qui vont vous contrôler en 2015? Est-ce que ce sont la mentalité ancienne, la mentalité de vos parents, ou la mentalité de vous qui n'avez rien à voir avec vos parents, peut-être? Est-ce que c'est la mentalité que vous aviez avant de recevoir Jésus qui va vous contrôler? C'est pourquoi Paul dit, les choses anciennes sont passées, elles sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, et les choses anciennes, il ne faut pas y retourner. Ne retournez pas aux vieilles habitudes, ne retournez pas aux vieilles pensées, aux vieux systèmes, aux vieux sillons de pensées anciennes. Vous avez labouré dans des sillons et vous repassez dans les sillons. Et on a facile de retourner dans ces vieux sillons. Labourons un champ nouveau. C'est pourquoi Paul dit ceci, hein. Les choses anciennes sont passées. Alors, c'est comme un petit cochon, tout propre, qui retourne à la boue de ses péchés mignons. Quand nous retournons à nos anciennes pensées, quand nous retournons à notre ancienne mentalité, c'est comme si nous étions des cochons tout propres, parce que le Seigneur nous a purifiés, hein. Et puis, on va se refourrer dans la boue. Parce qu'on a l'habitude de faire ça, c'est comme ça qu'on a toujours fait. Et donc, nous devons vraiment veiller sur nous-mêmes. Est-ce que je fonctionne avec la nature divine ou je fonctionne avec la nature terrestre? Qu'est-ce qui a le contrôle en moi? Qu'est-ce qui est le plus grand? La chair ou l'esprit? Est-ce que c'est Jésus qui est assis sur le trône ou est-ce que c'est le moi? Le moi qui dirige comme avant de recevoir Jésus? Comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires, dit Paul, auxquels vous voulez à nouveau vous asservir? Il y a des pauvres principes. Alors, j'aurais voulu montrer, mais on n'aura pas la possibilité, je le ferai une autre fois. Mais simplement pour dire, il y a une pyramide qui s'appelle, et nous avons tous vu ça à l'école, la pyramide des besoins fondamentaux de l'homme, selon Maslow. Alors, il y a les besoins physiologiques, la faim, la soif, la survie, la sexualité, le repos, l'habitat. Voilà, c'est besoins primaires, normaux. Deuxièmes, on va un peu plus haut, besoin de sécurité, se sentir en sécurité, faire confiance. C'est important, on a besoin de ça. Sentir en sécurité, avoir confiance, besoin de confiance. Besoin d'appartenance, troisième, un peu plus loin, être aimé, écouté, compris, recevoir l'estime des autres, faire partie d'un groupe, avoir un statut. Si on va encore un peu plus loin, les besoins d'estime, on a besoin de l'estime, le sentiment d'être utile et d'avoir de la valeur, conserver son identité. C'est important. Et puis, le plus haut, c'est le besoin de s'accomplir, développer ses connaissances, ses valeurs, vivre en relation, parce que c'est pas mis, mais je le rajoute parce que c'est le plus haut, c'est la cerise sur le gâteau, hein, c'est le sommet de la pyramide, c'est vivre en communion avec Dieu. C'est ce qui nous distingue des animaux, d'ailleurs. Parce que les animaux ne savent pas vivre en communion avec Dieu, il y a des choses, bien sûr, qui sont là, dites, qui n'ont rien à voir non plus. Et donc, là, c'est le plus élevé de l'être humain, c'est d'être en contact avec son Créateur. C'est le plus élevé. De faire la volonté du Dieu qui nous a créés. Nous sommes vraiment là dans les besoins de réalisation de ce pourquoi nous avons été créés. Nous avons été placés sur la terre pour être en relation avec Dieu. Et ceux qui ne le font pas, ils vivent pour fonder une famille, ils vivent pour gagner des sous, ils vivent pour avoir un toit, une belle bagnole, pour séduire, pour utiliser la vie à leur profit. Mais au final, tout ça est décevant. Au final, il y a beaucoup de gens qui arrivent au bout de leur vie en disant « mais j'ai vanité ». C'est l'Ecclésiaste Salomon qui le dit « vanité des vanités ». Qu'est-ce que ça sert? Qu'est-ce que ça m'a servi à faire des constructions dans tous les sens? Et, enfin, bon, il a construit le temple, mais il a construit beaucoup de bâtiments. Il a étudié la biologie, la zoologie, la botanique et tout le reste. Et finalement, il s'est donné énormément de peine. Et au final, vanité des vanités. C'est la fin du discours. Et finalement, il dit, mais finalement, craindre Dieu et observer ses commandements, ça c'est le plus important. Ça c'est le final du philosophe qui philosophe avec la vie, les questions, les grandes questions existentielles. Et finalement, c'est ça qui est important. Craindre Dieu. Et oui, c'est le sommet de la pyramide, évidemment. Alors, Paul dit ceci, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Il les voit en train de reculer. Ils reculent. Les Galates, ils sont en train de reculer. Au lieu d'avancer, ils doivent avancer. En 2015, ne reculez pas en 2014. Hein. D'ailleurs, les horloges ne fonctionnent pas normalement à l'envers. Quelquefois, ça existe, mais ça marche pas bien. C'est pas comme ça que ça doit marcher. De toute façon, on ne retournera pas en arrière. Hein. Alors, ne retournez pas en arrière, s'il vous plaît. Ne regardez pas en arrière. Hein. Si tu te mets à la charrue, ne regarde pas derrière ce qui se passe. Marche devant, regarde à Jésus. Ne sois pas comme la femme de Lot qui regarde à la mode de Sodome et Gomorre. Alors, Paul est comme une femme enceinte. Des chrétiens de Galatie. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Il est comme une femme enceinte. Des Galates. C'est comme si il était la mère qui avait mis au monde et puis qu'il les reprend parce que ça ne va pas. Ils sont mal formés. Il faut les refaire un peu. Je ne sais pas. Il se soucie de la bonne formation du fœtus. Il les voit comme des fœtus. Ils vont bientôt sortir et il a peur qu'ils soient mal formés. Aïe, 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 j'espère que vous allez sortir d'une manière correcte. Dieu veut vous former à l'image du Christ. Et il a tellement peur qu'ils ne soient pas formés à leurs termes et meurent. Serait-il possible que l'on revienne en arrière dans la croissance spirituelle? Dans la croissance biologique, normalement, on ne revient pas en arrière. À part quand on est très 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 âgé, oui, on peut être grabataire. Enfin, ça veut dire qu'on a besoin du lit, on a besoin de rester dans le lit parce qu'on ne sait plus bouger. Et là, on est grabataire dans le sens que on n'évolue plus. On va dans un sens négatif, malheureusement, parce que ça, c'est la vieillesse extrême conduit à ce genre, peut conduire à cela. Attention au retour à la case départ. Connaissez les jeux, là, on retourne à la case départ. Ça, j'aime pas tellement ces jeux-là. On retourne dans la case départ, faut tout recommencer. C'est pas gai. Alors, et comment est-ce qu'on retourne à la case départ? Comment est-ce qu'on retourne à la case départ? Eh bien, quand on écoute le diable qui nous dit, Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que Dieu a réellement dit? Le doute précède la séduction du mensonge et l'incrédulité. Il y a d'abord le doute, puis on est séduit, ouais, tout compte fait, ouais. Et puis après la séduction, on tombe dedans et on devient finalement incrédule par rapport à Dieu, par rapport à la parole de Dieu. On devient incrédule. Et il y a des gens comme ça qui ont quitté les églises, qui ont quitté la foi, qui ont quitté le chemin de la parole de Dieu, de la vie de prière. Et ils sont retournés en arrière, ils sont replongés dans ce qu'ils étaient auparavant. C'est triste, non? Parce que il y a eu une blessure. Quelqu'un a frictionné leur orgueil ou il y a eu une faute réellement posée par quelqu'un qui leur a causé vraiment une amertume, et cette amertume a produit des racines, et ces racines-là, ils ne s'en sont pas détachés, ils n'ont pas appris les outils, les mesures nécessaires pour pour enlever cela. Ils n'ont pas lu la parole, ils n'ont pas cherché Dieu dans la prière, ils n'ont pas confessé les douleurs de leur vie au Seigneur. Parce que quand on confesse nos douleurs au Seigneur, il est celui qui sonde nos cœurs et nos reins. Il veut nous aider à nous en sortir. Il est le Dieu de délivrance. Il n'est pas seulement le Dieu de mon salut. Il est le Dieu de ma délivrance. Il est le Dieu de ma guérison. D'accord? Et le lieu de la guérison, c'est la présence de Dieu, ici. Hein? Partout où nous sommes, deux ou trois, et chacun aussi dans sa chambre, là où Dieu voit, eh bien, on peut lui confesser aussi. On a des frères et des sœurs avec qui nous pouvons confesser. Confessez vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres. Afin que vous obteniez la guérison, soyez guéris, soyez bénis. Et ça, c'est le corps de Christ. La confession dans le corps de Christ, c'est important. Hein, on devrait plus souvent le dire. Et Paul dit encore ceci au chapitre 3, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Vous avez revêtu Christ. Et baptizo, c'est plonger, immerger. Vous avez été immergé dans le Christ. Plongé en lui. Vous étiez plongé dans le monde, mais Dieu vous a plongé en lui. Vous avez été plongé par la foi en Christ. Vous êtes en Christ. Et en Christ, nous avons toutes les promesses à disposition. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Et nous avons revêtu Christ. Revêtu. Bon, ça, hein, le revêtement. Revêtement de puissance, ça c'est là, avec le Saint-Esprit. Mais revêtu Christ, revêtu quoi? La justification. Hein? Nous avons été justifiés, par exemple. Nous avons été blanchis, nous avons reçu le pardon de nos fautes. Alors, l'expérience de l'immersion, il y a deux choses. Une immersion comme dans le baptême, c'est rapide. On est plongé quelques instants et ça, c'est l'image que nous avons été baptisés, donc immergés, hein, et que nos péchés sont restés au fond de l'eau. Bon, ça, c'est une façon de voir. Mais nous avons aussi l'immersion en Christ qui ferait plus référence à ce que donne un physicien, un poète grec, Nicander. Il parle de la recette pour faire des conserves au vinaigre et pour ceci utilise les deux mots. Le légume doit d'abord être plongé, bapto, dans de l'eau bouillante, puis immergé, baptizo, dans le vinaigre. Et donc, il est immergé, donc le légume doit être immergé dans le vinaigre. Les deux verbes concernent une immersion, mais la première est temporaire et brève, la seconde est une action de longue durée, considérée comme définitive. Et en Christ, c'est une action définitive, nous sommes en Christ. Définitive, mais il faut toujours avoir à l'esprit que nous sommes en Christ, ou sinon on pourrait perdre de vue cela. Donc, l'accord intellectuel n'est pas suffisant. Il faut une réelle union avec le Christ, un réel changement, comme le légume dans le vinaigre. Nous sommes vraiment plongés en Christ. Je crois que c'est tellement important. Et de même, revêtir Christ, c'est enfiler les habits sacerdotaux. Hein, les sacrificateurs dans l'Ancienne Alliance devaient mettre des habits, devaient d'abord se laver, des ablutions qui respectent la loi, il y a des ordonnances bien précises, et ils devaient porter des habits de fin lin blanc, etc. C'était magnifique, on a vu ça à Jérusalem, hein, ils ont fait une reconstitution. Et c'est une image de ce que doit être notre cœur aussi, à l'intérieur de nos vies. Hébreux 10, 22 dit ceci, « Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Hein, » je revois vraiment le sacrificateur. Là. Et nous sommes tous des sacrificateurs de la Nouvelle Alliance. Lavé d'une eau pure, purifiés d'une mauvaise conscience, les cœurs lavés dans la plénitude de la foi, des cœurs sincères. Alors, encore un autre verset dans l'Apocalypse, chapitre 19. « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se vêtir de fin lin, éclatant et pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Verset 7. Éphésiens, chapitre 1er, verset 18. « Qu'illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est la glorieuse richesse de son héritage. » 1 Pierre 2, verset 9. « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez, les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes un sacerdoce royal. » Et Jésus donnera dans une parabole ceci, donc le maître de cérémonie qui reçoit les invités et dira à quelqu'un qui était mal vêtu d'ailleurs, Matthieu 22, verset 12, il lui dit « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Pour rentrer au banquet de Dieu, les noces de l'agneau, il faudra avoir des habits purs, lavés, sanctifiés. Il faut un cœur pur, c'est ça que ça veut dire. Hein? Un cœur nettoyé, pur. On peut pas venir avec nos vieilles mentalités et aller au ciel. Impossible. D'ailleurs, la porte du ciel, elle est petite, basse. Il faut demander pardon. Vous voyez, on est obligé de courber les chines. Hein, c'est une image, hein. Je ne dis pas qu'il y a une petite porte, mais c'est la porte de la repentance, une porte vraiment où nous devons nous humilier devant le Seigneur. Et Paul dit ceci aussi, car ce qui compte, c'est d'être une nouvelle créature, être une nouvelle créature. Et c'est exactement comme la chenille qui va devenir chrysalide et qui va devenir papillon. Donc, trois stades pour arriver au papillon. Hein? La chenille, la chrysalide, le papillon. Et nous devons passer d'un stade à l'autre. Le papillon ne va pas revenir chrysalide et puis il ne va pas revenir chenille. Nous devons devenir ce que Dieu a voulu que nous soyons. Et on ne va pas revenir en arrière. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Ne faites pas de la liberté que vous avez, ne faisons pas de la liberté qui nous est donnée un prétexte pour vivre selon la chair. Parce que c'est la grâce. Dieu pardonne tout et c'est pas si grave que ça. Dieu pardonne. Et il me pardonne déjà à l'avance toutes les bêtises que je vais faire, dont je ne vais pas me dégager, c'est pas trop grave puisque Dieu pardonne. Non, je pense que Dieu nous appelle vraiment à la liberté. La liberté a un prix. Elle a coûté le don du Fils de Dieu. Et elle nous coûte aussi de vivre d'une manière conséquente. C'est important. La chenille marche en ondulant son corps. Le papillon vole. Une grande différence. Hein, si vous voyez une chenille, elle ondule son corps, et elle a des pattes, hein, et au bout des pattes, il y a des ventouses. Et alors, comme ça, elle avance. Hein, la chenille pourrait être comparée à la nature humaine, terrestre, charnelle, qui ondule son corps pour avancer. Le papillon, lui, il a des ailes, et n'a plus besoin de ramper puisqu'il a été métamorphosé. Donc, il a des ailes. Et Paul dit ceci, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier grâce à Dieu. Nous ne sommes plus les esclaves de nos vieilles habitudes, mais nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu, conduits par Dieu, affranchis de la lettre de la loi, affranchis de la loi. Et nous vivons par la foi. Nous sommes héritiers du ciel, alors volons. Les papillons y volent. Nous n'avons plus à ramper dans les vieilles habitudes du monde. Nous avons à prendre notre envol. C'est un peu comme si le papillon oubliait qui il est et continue à faire la chenille, parce qu'il a complètement oublié qu'il a été métamorphosé. Et le papillon, il va pas oser voler. Et il va faire un peu la chenille. C'est grave. Et j'ai un peu l'impression que les Galates, ils étaient comme ça. Ils n'osaient plus voler. Ils n'osaient plus prendre leur envol par la foi, mais ils s'appuyaient sur les anciennes choses, sur les principes de l'ancienne alliance. Et je vais donner un dernier verset. Je suis crucifié avec Christ, dit Paul, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Alors, je vais relire ceci. Je suis crucifié avec Christ. Je suis mort avec Christ sur la croix. Est-ce que vous réalisez que vous êtes mort avec Jésus sur la croix? Et ce n'est plus vous qui vivez. C'est qui vit? C'est Christ qui vit en vous.